Bonjour, ces hommes et ces femmes consacrent leur vie à sauver des vies. Pour gagner le pari de ce métier noble, les infirmiers subissent une formation spécifique, protéger la vie, la maintenir en bon état, accompagner les malades dont la souffrance demande de l'abnégation. Malheureusement, dans l'exercice de ce métier, un constat amer, les infirmiers s'exposent à de nombreux risques, mais le traitement salarial n'est pas à la hauteur des services rendus. On met les bouchées doubles pour lutter contre le paludisme au Kasaï occidental. L'association des santé familiales, les coordinations des luttes contre le paludisme et la santé de la reproduction, ces ligues contre la malaria. Objectif, assurer une bonne prévention et une bonne prise en charge des malades. Plus de 1800 compatriotes ont été rapatriés de la République centrafricaine du Congo-Brazzaville depuis octobre 2004. Leur réinstallation au bercail n'est pas du tout rose. Bien qu'heureux de retrouver leur lieu d'origine, certains rapatriés des territoires de Guémena et Libengué exigent davantage de l'assistance du Haut Commissariat pour les réfugiés en vue de faciliter leur intégration. Ici, nous lisons les dernières pages des notes des voyages de notre confrère Marcel Ngombombala. La sucrerie de Lotokila est en ruine, située à 81 km de Kisangani, direction sud-est. La sucrerie a subi les pillages et la conséquence de la mauvaise gestion. Jadis troisième sucrerie du pays après Kwilungongo et Kiliba, la sucrerie de Lotokila ne compte plus que 300 agents sur les 3000 qu'il y avait à l'époque de son apogée. L'usine de Lotokila croupit dans ses vestiges en ruine. Au Capi Action, voilà tout en titre pour aujourd'hui. Merci d'être nombreux à l'écoute du magazine de proximité et sur Radio Okapi. Walter Melody est au micro.
Okapi. Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
Comment devient-on infirmier? Quel est le métier de l'infirmier? D'abord, pour commencer, Jolie Malivoto nous remet et dans, enfin, nous donne la carte postale, si vous voulez, ou le portrait d'un infirmier.
Il n'est pas facile de devenir du jour au lendemain infirmier de profession. Il faut passer par des études, car ce métier exige beaucoup de dynamisme, de maîtrise et d'amour. C'est une vocation. À l'hôpital, ce professionnel de soins ou infirmier est chargé à la fois des soins à donner aux malades, de leur bien-être et de tâches administratives. Bref, cette intervention vise à répondre aux besoins de santé de la population à tous les âges, de la vie à la mort. À l'hôpital général de référence de Kinshasa, par exemple, autant des tâches à haute technicité engagent la responsabilité de l'infirmier. Mais que faut-il faire pour devenir infirmier? Il y a des étapes à parcourir.
Pour devenir infirmière, on a trois cycles. Il y a le cycle court, le cycle long, et puis après le grade, pour le graduat. Donc pour le cycle court, c'est 2 ans après quatrième secondaire. Le cycle long, c'est 4 ans après quatrième secondaire. Et le troisième, c'est le graduat. Donc après la sixième examen d'état, là vous allez à l'université à l'ISTEM. Pour ceux qui ont fait le cycle long, donc les infirmiers niveau A2 doivent d'abord aller à l'ISTEM et après l'ISTEM, là ils peuvent aller en faculté de médecine.
C'est une profession noble, il faut être dévoué, avoir le sens du sacrifice, avoir le courage, avoir l'amour du prochain, avoir la bonté. La personne qui veut devenir infirmière doit être humainement préparée.
Ce sont là des qualités incontournables. Il faut dire que l'infirmier fait tout à la fois. Il est chargé d'appliquer les prescriptions du médecin, distribution de médicaments, calcul des doses, piqûres, pose de perfusions, prise de sang, pansement, autant de services à sa charge. Sa présence au chevet du patient lui permet de surveiller son état de santé, l'évolution de la maladie, les effets du traitement, mais aussi son moral. Ce n'est pas tout. La communication est une part non négligeable du travail d'infirmier. Il fait souvent le lien entre la famille et le corps médical. Cependant, le travail que fait l'infirmier n'est pas toujours rose. Il court un certain nombre de risques dans le milieu hospitalier.
Vous pouvez avoir, par exemple, à l'entrée, à la réception, là, vous avez un malade qui est agressif. Vous êtes le premier à l'aborder. Donc, vous pouvez recevoir les coups.
Et à travers nos hôpitaux, avec les conditions malsaines de propriété et d'hygiène, nous courons tout le temps le risque d'être contaminés directement par voie aérienne pour les maladies comme la tuberculose, par voie de contact des différents virus. Les risques sont plus élevés chez nous que chez les médecins.
Il y a les maladies, il y a les accidents de travail. Les maladies, nous pouvons dire la tuberculose, VIH, SIDA, nous avons la typhoïde, Ebola. Vous pouvez attraper à la figure des sécrétions des malades. Quand vous faites un accouchement, par exemple, la femme pousse, vous avez tous les liquides amniotiques sur vous. Vous pouvez attraper si cette femme-là a des maladies. Et c'est l'infirmier qui reste 24 heures sur 24 autour de ces malades. S'il y a un risque de contagion, c'est l'infirmier qui court beaucoup de risques.
Il faut savoir que l'infirmier est un collaborateur pressé pour le médecin car il est constamment présent auprès des malades. L'aspect relationnel du métier est donc très important. Mais dans notre pays, la RDC, le professionnel des soins n'est pas souvent pris en considération par rapport au médecin. Pourquoi? Écoutons plutôt cet infirmier.
C'est par l'erreur du gouvernement qui a continué à considérer le médecin comme on l'avait considéré du temps colonial. Le médecin était le seul universitaire qu'on trouvait au niveau de l'hôpital. Et tous les autres, c'était essentiellement des infirmiers auxiliaires. Maintenant, on voit le médecin comme étant un dieu, et l'infirmier, on trouve que ça ne vaut pas la peine de discuter avec lui. Et pourtant, actuellement, il y a des infirmiers docteurs à tant infirmières.
Nous pensons que être infirmier, c'est non seulement faire partie d'une profession, mais c'est aussi être acteur d'une profession d'aujourd'hui et pour demain. Car la vie de beaucoup de gens en dépend. Vu tous les risques que court l'infirmier, on doit prendre non seulement en considération les revendications des médecins, mais également ceux de l'infirmier. Car il y a des risques que des malades soient abandonnés à eux-mêmes et qu'il y ait perturbation des activités dans des hôpitaux en cas de grève.
Ok, direction le premier sujet, nos premiers invités aujourd'hui pour commenter la situation de ces hommes et de ces femmes qui ont consacré leur vie à sauver des vies, les infirmiers. C'est monsieur, notre premier invité, c'est monsieur Mutamba Mpoyo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du syndicat national des cadres, agents et employés du secteur des services de santé.
C'est cela.
Donc, laboratoire, radiologue,
kinésithérapeute, assistant pharmacie, nutritionniste, il y a tout le monde là-dedans, même des administratifs.
Voilà, vous faites partie d'un corps qui exerce un métier noble pour sauver des vies. Vous avez suivi ce dont on en a dit déjà, ce qu'on en a dit depuis le début de cette émission. Un commentaire, est-ce qu'on a omis de dire quelque chose?
Sauf que il faudra que dans l'avenir nous fassions une meilleure campagne de faire connaissance à la population. Quels sont ces différents métiers qui composent le personnel de santé?
Oui.
C'est très important parce que dans la population, on pense que quand ce n'est pas le médecin, c'est l'infirmier. Or, le milieu de l'hôpital comprend beaucoup de personnes. Oui. Et ce serait important, si vous nous aidiez à un certain moment, de faire la connaissance de tous ces métiers.
On le fera évidemment, mais aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est ce triste constat que vous continuez à vous battre pour obtenir l'amélioration de vos conditions de travail. Où est-ce que vous en êtes? Parce que moi, personnellement, je vous ai vu sur les médias
en train d'expliquer
ce qui se passe. L'évolution de la chose. La dernière en date, que vous reveniez d'un entretien avec le vice-président en charge des affaires socio-culturelles et vous n'étiez pas du tout heureux d'annoncer ce que vous étiez en train de dire.
Nous l'avons vu à deux reprises. La première fois, c'était le vendredi. Et nous sommes séparés sur un ton selon lequel il y avait encore un problème d'incompréhension entre nous. Parce que nous allions avec des chiffres plus élevés. Nous souhaiterions que ce soit peut-être moins rabattu, mais ils se sont retrouvés à moins de la moitié de
ce que nous. Parlons concrètement. Qu'est-ce que vous demandez et quel est le montant qu'ils avaient?
Les calculs que nous avons faits ont dégagé 15 milliards de francs congolais pour toute l'année, pour toutes ces catégories professionnelles. Ce qui fait à peu près 12 à 14 000 agents.
Ok, mais un agent recevrait l'agent moyen, le plus bas niveau, ce serait combien par mois?
En tout cas, je n'ai pas retenu, ces chiffres, sauf que c'est fait en fonction des grades.
Oui, oui.
Bon, maintenant, quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons négocié, ils ont dit d'abord c'était 6, nous avons trouvé que c'était inacceptable. Mm. Bon, nous avons négocié encore jusqu'à atteindre 9 milliards et nous nous sommes séparés sous ce ton-là. Bon, deux jours après, nous avons appris qu'il y avait déjà des calculs qui étaient faits et on projetait déjà de payer sur base de 7 milliards. Nous avons protesté. C'est comme ça que le vice-président nous recevra. Mm-hmm. Bon, il va nous expliquer les difficultés dans lesquelles ils se sont retrouvés et comme il a constaté que nous n'étions toujours pas tombés d'accord, et nous a demandé d'aller réfléchir, et lui aussi resterait réfléchir.
Donc il y a, si vous voulez, une espèce de voie dans votre combat, il y a deux vagues, qu'est-ce qui se passe?
Vous allez le problème, c'est que, comme il y a une incompréhension de la valeur des autres professionnels de santé non médecins, il y a des personnes qui pensent que ce sont peut-être des sous-hommes, ce qu'ils revendiquent, c'est peut-être trop. Et pourtant, nous avons une correspondance du ministre de la Santé datant du 11 juillet 1990. Et dans cette correspondance...
Il y a 15 ans.
Vraiment. Mmh. C'est que nous ne parlons pas en l'air.
Oui.
Dans cette correspondance, le ministre instruit le secrétaire général de faire appliquer certaines normes.
Par exemple, celle qui nous concerne ici.
Ici, dit... c'était une histoire concernant les chirurgiens dentistes et puis il a ajouté « Par ailleurs, le barème des techniciens de santé est aligné sur celui des médecins selon les équivalences établies. » Et partout où nous passons, comme on a fait une campagne d'intoxication, les gens pensent que...
Campagne d'intoxication visant à dire quoi?
D'intoxication ou de dénigrement de l'infirmier.
Ah, okay.
Par l'infirmier, on dénigre tous ceux qui travaillent avec l'infirmier qui ne sont pas médecins.
Combien touche un infirmier aujourd'hui?
C'est difficile de dire, parce que c'est une question de grade.
Mais oui, le moins gradé, il touche combien? Celui qui a fait 2 ans après sa 4e année secondaire, le moins gradé.
Il touche autour de 13 000 francs congolais.
13 000 francs congolais.
Oui, vous comprenez que ce n'est pas très exorbitant.
Et pour un infirmier de ce grade-là, vous souhaiteriez qu'il touche combien?
Nous souhaiterions qu'il touche au moins 20 000 de primes. Ça ferait déjà une avancée et le salaire et la prime, ça ferait déjà quelque chose. Et avec le temps, parce qu'il ne va pas rester stationnaire à ce niveau-là, il va évoluer, il pourra avoir un peu plus.
Mais on constate que vous êtes en grève actuellement, mais ça se ressent dans l'administration des services rendus aux malades et les médecins en souffrent terriblement.
J'espère qu'ils n'en souffrent pas. Parce que ça fait partie de ce qu'ils ont voulu.
Qu'est-ce qu'ils ont voulu?
Ils ont voulu toucher la prime de risque tout seul. Nous disons ça en connaissance de cause, parce que nous avons eu les rapports de la commission qui avait calculé cette histoire des primes au mois d'octobre. Dans ces rapports-là, il était dit qu'on devait satisfaire les médecins et qu'on devait aussi satisfaire les autres. Mais parmi les médecins, il y en a qui sont bien, mais il y a d'autres qui sont vraiment intégristes.
C'est-à-dire
ceux qui veulent que ce soit seulement eux, pas les autres. Mm-hmm. Bon, et nous croyons que les autorités ont suivi la voie des intégristes. Ils ont payé seulement les médecins pendant que nous les avions déjà avisés.
À vos attentes, le service de santé pour, par exemple, moi, Walter, si je suis malade, ça part... Déjà du portier à l'entrée de l'hôpital jusqu'au médecin qui me consulte et à l'infirmier qui me donne les actes médicaux, c'est toute une chaîne et tout le monde doit être pris en compte.
Oui, c'est à ça que nous sommes arrivés finalement.
Mm. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe?
Oui, pour ça, même le gouvernement est d'accord. Mm-hmm. Il reconnaît qu'il y a eu une erreur à ce niveau-là. Mm-hmm. Vraiment, nous sommes contents qu'ils reconnaissent cela de cette façon-là.
Mais alors, à quand la solution concrète?
Bon, à quand la solution? Ça ne dépend pas de nous. Si ça dépendait de nous, nous ne ferions même pas 2 jours de grève. Ça dépend de ceux qui détiennent le portefeuille.
Ça fait combien de temps que vous êtes en grève, en fait?
Ça fait déjà un mois.
Mais on vous en parlez.
Déjà un mois.
Parce que quelque part.
Malheureusement.
Oui. Parce que c'est ça que j'ai noté. Vous dites à moi avec une pointe d'humour dans la voix. Je me demande les serments que prête tout ce personnel de santé. C'est quand même la vie et l'intérêt des malades avant tout, non?
Nous n'avons que ça comme préoccupation. Parce que nous, quand on nous forme pour recevoir toutes ces personnes qui viennent en situation de détresse. Et nous pensons que ces personnes viennent pour que ce ne soit pas une seule catégorie professionnelle qui s'en occupe.
Oui.
Et pour cela, il y a toutes ces personnes-là qui tournent autour du malade. Hein, toutes ces personnes parmi lesquelles le médecin, l'infirmier,
le laboratoire,
de laboratoire,
oui, oui.
Et même l'administratif, parce que cet administratif là-bas fait les documents et nettoie les locaux, et ça fait que c'est un groupe de personnes. Bon, toutes ces personnes-là, nous avons pris un engagement de nous occuper du malade. S'occuper du malade, ça ne veut pas dire faire le bénévolat, parce que même le sécourisme, où on disait que c'était le volontariat est limité actuellement à quelques heures, je n'ai pas de précision, dépasser 3 ou 4 heures de volontariat, le reste du temps doit être payé,
rémunéré.
Et à plus forte raison, hein, des personnes qui travaillent, qui ont
des professionnels,
qui ont
de la vie, ne font
des familles, oui, qui ont des responsabilités, on ne prête pas seulement de bénévolat, nous prêtons seulement de travailler pour des personnes qui doivent nous rendre service en nous payant le dû, en tenant compte de ce que nous revendiquons comme obtention.
Monsieur Moutamba-Mpoyo, vous, dans ce système de santé, qu'est-ce que vous faites, vous?
Moi, je suis nutritionniste et diététicien.
Et vous prestez où vos services?
Je preste à l'hôpital général de Kinshasa.
Et qu'est-ce que vous faites concrètement?
Je suis le chef de service adjoint de service de nutrition. Et là-dedans, je m'occupe de tous ces malades qui viennent, qui ont des problèmes nutritionnels. Quels sont les problèmes? Ils sont nombreux. À commencer d'abord par le prématuré, hein, qu'on doit gaver, qu'on doit soigner, en passant par les nouveaux-nés malades qui sont problématiques, jusqu'à l'âge adulte. Et chez les adultes, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, nous recevons aussi en ambulatoire toutes les personnes qui viennent parce qu'elles ont besoin du régime alimentaire.
Et depuis combien d'années exercez-vous ce métier?
Je suis là depuis 88.
88, on va faire le calcul tout à l'heure.
Okapi, le Congo à l'écoute.
Parce que vous le savez, au cœur de l'actualité, c'est la grève. Ça fait un mois déjà qu'ils sont en grève. J'annonce l'entrée de M. Patrice Samugungu. M. Patrice, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors vous êtes président du syndicat des infirmiers. On en a dit un mot aujourd'hui. C'est le même combat, tous les deux. Vous êtes embarqués sur le même bateau, sur la même barge. Je voulais savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui.
Et nous avons commencé la grève, ça fait bientôt un mois. Aujourd'hui, nous sommes le 10 du février, mais la grève a commencé depuis le 10 janvier. Alors, nous avons négocié avec le gouvernement. Hier, nous étions ici. Vous avez eu une dépêche selon laquelle il y a 7 milliards qui est accordé pour le paiement des professionnels de santé non médecins. Et nous sommes passés pour confirmer cette information-là et dire que bon, c'était une acompte, d'après ce que nous sommes dit avec le gouvernement, c'est une acompte qui a été avancée sur ce que nous avons demandé. Alors, il reste ce que je disais hier, il reste maintenant la modalité de répartition de cet argent.
Ça aura été multiplié par combien son salaire aujourd'hui, par exemple? Selon vos attendements.
On ne multiplie pas, c'est une ajoute. Je vous ai dit nous aimerions que le minimum soit au moins de 20 000.
C'est-à-dire
20 000 francs congolais.
Ok, 20 000 francs, ouais. Parce qu'il faut préciser les
monnaies. Chez vous, ici, on parle
en termes. Non, ce n'est pas qu'en termes de cette monnaie-là, vous voulez parler de dollars. Non, je voulais qu'on précise, parce que si vous dites 20 000, est-ce que c'est francs congolais, c'est francs CFA, est-ce qu'il y a beaucoup de monnaies qui circulent
ici? C'est ça,
on nous attend. Oui. Mais alors, vous avez plusieurs fois rencontré les vice-présidents. Vous avez rencontré tout le monde jusqu'à ces niveaux-là, la vice-présidence. Est-ce que vous avez une précision sur au moins la date de démarrage de l'octroi de cet acompte?
Oui, la date précise, je crois que nous allons la connaître aujourd'hui parce que au niveau de la vice-présidence, le gouvernement a dégagé l'enveloppe.
Oui.
Maintenant, nous les syndicalistes avec notre ministère, et nous allons nous atteler maintenant à pouvoir dégager ce que chacun peut toucher. Mais ça ne dépend plus de la vice-présidence parce que le gouvernement a déjà débloqué ce montant-là, mais c'est à notre niveau maintenant avec notre ministère pour pouvoir accélérer les processus de travail et puis de caisser l'argent dans un meilleur délai.
Et voilà, j'ai quelques réponses par rapport au salaire moyen de certains infirmiers dans certaines villes. François Mouna Ngaï, qui nous appelle du Kassai occidental, je présume que c'est de Kananga, qui nous dit que chez eux, l'infirmier le moins gradé touche 1200 francs congolais et le plus gradé 5600 francs congolais. Et puis Madame Ilunga, qui nous appelle des Gbadolites, qui nous apprend que à Gbadolite, un infirmier à deux touche 2000 à 2500 francs congolais comme salaire. Le médecin n'a même pas 5000 francs congolais. Voilà des précisions sur ce qu'on voulait avoir. Emmanuel Kilembi qui pose une question pertinente, qui nous appelle de Kananga. Est-ce que le montant débloqué concerne aussi les infirmiers qui sont dans les provinces? Monsieur Patrice Samugungu.
Oui, merci pour la question, monsieur le journaliste. Et dans les premiers temps, nous avons posé le problème dans l'ensemble pour toutes les provinces. Mais on ne peut pas faire tout au même moment. Et pour le moment, le montant qui est débloqué, c'est pour uniquement Kinshasa. Mais nous sommes en pourparlers avec le gouvernement dès qu'on termine cette étape-là. Et nous avons aussi les négociations pour les provinces.
Je voulais ajouter que quand le travail avait été fait au mois d'octobre, on avait fait une estimation des effectifs du personnel. Professionnels de santé de l'intérieur. Mais il nous a été rétorqué que ces professionnels de santé de l'intérieur, nous ne maîtrisons pas leur effectif. Ce qui fait que même les calculs que nous avions faits ont été mis de côté en attendant le contrôle qui devra être effectué incessamment.
En province, il y en a quand même qui sont infirmiers depuis une dizaine d'années, qui ont des numéros matricules quand même.
Nous avons comptabilisé, nous avons atteint à peu près les 31 000 agents. Mais on nous a dit, là-dedans, il y a un nombre qu'on n'a pas contrôlé. Hein, nous ne voulons pas nous engager à commencer à payer des personnes que nous ne maîtrisons pas. Hein, c'est que, ils ont dit, avec le contrôle qui va être organisé incessamment avec la fonction publique, et le ministère.
Il y a crainte que ça prenne du temps. Je voudrais me faire l'avocat de tous les infirmiers du Congo qui ne sont pas à Kinshasa, qui savent. Quand on est au village, on a l'impression que ceux qui sont à la capitale, une fois qu'ils ont obtenu leurs intérêts, pouf, on baisse les bras et on ne pense plus aux autres. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui qu'après que Kinshasa, les infirmiers et autres administratifs de Kinshasa auront eu, ne fût-ce que cet acompte, que la lutte va continuer avec la même ardeur pour que tous les autres administratifs des provinces puissent bénéficier des mêmes services. Monsieur le Président.
Oui, c'est qui la preuve que c'est notre détermination. C'est-à-dire, lorsque, comme mon collègue vient de le dire, lorsqu'on a posé le problème, c'était dans la globalité. On a parlé de la République.
Mais on a pris ce moment en compte.
Effectivement, on nous a opposé cet élément-là de contrôle des effectifs. Oui. Alors, notre détermination va faire de sorte que, dès qu'on termine avec Kinshasa, nous allons aussi, parce que c'est un point de négociation, nous allons absolument demander au gouvernement de pouvoir procéder à ces contrôles-là pour que nos collègues de l'intérieur touchent l'argent aussi. Nous sommes conscients, nos syndicats sont les syndicats nationaux, ce n'est pas les syndicats de Kinshasa, nous sommes partout dans toutes les provinces. Nous allons nous battre aussi pour que cela arrive dans toutes les provinces.
Est-ce que vraiment vous pouvez mettre la main sur le cœur ici, qu'aussitôt que vous, à Kinshasa, vous aurez eu ce que vous réclamez, et qu'en attendant la maîtrise des effectifs dans nos provinces, que vous allez continuer le même combat?
Oui, mon collègue va me compléter. La garantie que c'est la détermination. Nous avons cette détermination parce que les infirmiers, les techniciens, les médecins, ce n'est pas seulement Kinshasa. C'est notre détermination qui va faire que lorsque on termine l'étape de Kinshasa, nous sommes obligés de faire la même chose comme nous avons fait pour Kinshasa.
Moutama,
oui, ce que j'ai à compléter, c'est que vous avez vu que nous avons parlé sans attendre que les amis de l'intérieur réagissent. Nous déjà, nous avions fait faire des calculs en prenant en compte leur situation. Ça veut dire que nous pensons toujours à eux. D'ailleurs, quand il nous arrive de voyager, aller à l'intérieur pour faire des formations syndicales, pour telle ou telle mission, ils nous reçoivent. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas oublier. Ils nous envoient même des rapports de leurs activités.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bon, d'abord, de considérer, si vous voulez, des situations pour ceux qui sont en province. Situation A, ceux des infirmiers qui sont reconnus, mécanisés, qui ont des numéros, matricules, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et la situation B, ceux dont les dossiers doivent être régularisés en vue du contrôle des effectifs. Parce que ceux-là qui ont, par exemple, qui exercent l'art d'assister le malade, qui sont infirmiers depuis 1988, comme vous, par exemple, notamment, ne comprendront pas pourquoi ils doivent attendre qu'eux reçoivent cette prime, alors que vous, à qui c'est ça, vous l'avez, et que d'autres ne l'ont pas.
Mais vous voyez pourquoi ça traîne, même ici à Kinshasa. Déjà sur place à Kinshasa, on n'est pas parvenu, selon ce que l'autorité dit, on n'est pas parvenu à avoir tous les nombres. Pourquoi?
Rien que pour Kinshasa, pourquoi? Vous ne savez même pas combien il y en a.
Non, non.
Pourquoi?
Le nombre précis. Parce qu'il y a des engagements qui se font assez régulièrement. Et toutes ces personnes qui travaillent là-bas, même celles qui ont été engagées l'année passée, il y a deux ans, il y a trois ans,
de nouvelles
méritent unités. D'avoir la prime.
Mais oui, évidemment.
Hein, méritent d'avoir la prime. Et à ce niveau-là, il nous fallait revoir tous ces chiffres pour ne pas paraître ridicule. Hein, parce que si nous décidons de payer 50 personnes dans une institution et qu'il y en a 30
qui
restent là sans être payés, bon, on dirait que nous sommes en train de choisir.
Vous ne pouvez pas envisager une marge
voilà.
D'ouverture pour dire qu'il y a eu une année académique qui s'est achevée, il y a eu probablement de
c'est
nouvelles.
C'est à ça que nous sommes finalement arrivés, parce que s'il fallait seulement compter toutes les personnes telles qu'il y avait là-bas, le travail devait attendre au moins 3 mois. Nous avons levé l'option avec le ministère en disant nous payons d'abord tous ceux qui ont toujours été payés. Et nous gardons la marge de telle sorte que ceux qui n'ont pas encore été payés et qui sont en train de travailler fassent l'objet d'une liste additive qui doit suivre.
Quelle a été la réponse?
Le principe a été adopté,
okay.
Même par le gouvernement. Et okay. Nous pensons que nous allons faire cet effort-là. Pour l'intérieur aussi.
En tout cas, on va s'arrêter là pour ce premier sujet. Un mot peut-être pour terminer, Monsieur Patrice Samougongo.
Oui, un mot parce que vous avez soulevé une préoccupation pour qu'on puisse voir si on ne peut pas commencer avec ceux qui travaillent à l'intérieur. Où on fait les travaux.
Ceux qui travaillent depuis longtemps, qui sont organisés, dont les numéros
sont connus. Nous sommes conscients, mais nous voulons faire un travail une fois pour toutes. Parce que si nous commençons avec ceux qui travaillent déjà, et puis reposer encore le même problème pour ceux qui restent, ce n'est pas intéressant.
On ne repose pas le problème. Vous aurez acquis le principe.
Le principe est acquis.
Le principe a déjà été acquis.
Le principe est acquis, mais nous voulons faire le travail pour tout le monde au même moment. C'est beaucoup mieux.
Ok. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que lorsque le salaire est trop bas, les serments... Est-ce qu'on peut dire que ce serment-là fuit par la fenêtre lorsqu'on ne vous paye pas bien?
Nous ne disons pas cela, mais ici, nous avons grévé parce que l'autorité a négligé ce que nous avions dit. Nous avions prévenu. Hein, nous avons suivi des voies tout à fait légales, même s'il y a une autorité qui a dit hier que notre grève était sauvage, mais par rapport au terme syndical...
Je sais sur quelle chaîne je suis vice.
Par rapport au terme syndical...
ministre aux affaires étrangères,
oui, par rapport au terme syndical, une grève sauvage, c'est une grève qui n'a pas suivi tous les cheminements. Or, nous avons évité toutes les étapes.
Le ministre a pensé qu'il fallait mettre quand même un service minimum.
Oui, mais... Et ça, quand nous avons aussi dit...
Tropicana TV.
Oui, quand nous aussi nous avons dit que... il fallait penser aux autres directement. Le gouvernement, à ce moment-là, pourquoi il n'a pas pensé à nous?
Mais voilà. Autant de questions. Quelles sont les garanties qu'on donne aux infirmiers de l'intérieur? Est-ce qu'on attend qu'ils aillent aussi en grève pour réagir?
C'est
une question de Bounir.
Non. Nous venons de le dire. Pour les infirmiers de l'intérieur, nous sommes les syndicats nationaux. C'est-à-dire, s'il y a une grève, c'est le syndicat national qui va donner ce mot d'ordre-là. Mais pour le moment, nous sommes en pourparlers. C'est trop tôt d'aller en grève, mais qu'ils attendent d'abord...
Vous êtes allés en grève, ils ne sont pas allés, ils ont continué à soigner.
Nous négocions pour tout le monde, nous négocions pour l'intérieur, mais parce que, comme vous le dites là, s'ils doivent aller en grève, le mot d'ordre viendra de nous. Mais nous leur demandons de garder d'abord le calme et nous arrivons à la fin de notre négociation.
Guillaume Conjo de Bounet qui propose que ce montant débloqué puisse servir d'abord aux infirmiers se trouvant dans les provinces.
Bon, ça c'est son avis.
Bien, sans commentaire. Merci en tout cas d'être venu et on va suivre les dossiers ensemble.
Ok, merci, journaliste.
Okapi.
Okapi à Kananga sur 93 FM.
En tout cas, face à ce fléau qui frappe les familles, il faut que tout le monde s'y mette, qu'ils suivent les instructions, principalement du personnel de santé. On me dit que je suis en mesure de parler à mon confrère Nyamweni. Julien, bonjour.
Bonjour Walter, bonjour à tous.
Pouvez-vous nous dire comment se présente le tableau de malades atteints du paludisme dans cette province?
Je ne peux pas m'attarder pour l'instant de vous donner les chiffres. Les chiffres ils peuvent peut-être vous faire peur, et particulièrement nos auditeurs. Ceci dit, le tableau n'est pas du tout réduisant, il est donc sombre. Dans mon entretien que j'ai eu avec Dr Louis Akoulaï, ce dernier qui est chef de service provincial de lutte contre le paludisme, m'a fait savoir que le taux était supérieur au taux recommandé et par les institutions sanitaires. Si j'ai bien compris, cela veut dire que ce taux est important au Kassai occidental et qu'il faut faire bloc ensemble avec tous les partenaires pour y parvenir, pour faire reculer, si vous voulez bien, le paludisme.
Mmh. Mais alors, Julien Nyamweni, est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait l'inspection provinciale pour lutter contre le paludisme?
Oui, il faut dire qu'il existe toute une coordination qui s'occupe de la lutte contre le paludisme au Kassai occidental. J'imagine que cela est de même pour les autres provinces de la République démocratique du Congo. Cela dit, cette coordination applique la politique nationale de la santé, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre le paludisme. C'est justement cette coordination qui nous donne le taux observé au Kassai occidental. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter Dr Louis Akoulaï, chef de service provincial de la coordination de la lutte contre le paludisme.
Le tableau paludisme pour le Kassai occidental n'est pas très différent de ce qui se passe partout ailleurs en Afrique. C'est-à-dire, sur l'ensemble des malades que nous recevons, au moins 80% viennent consulter pour le paludisme, et sur ces 80%, il y a à peu près 7 pour 1000 qui décèdent de cause de paludisme. C'est légèrement supérieur à ce qui est retenu comme moyenne mondiale, puisque pour la moyenne mondiale, c'est 5,3 pour 1000 de décès. Nous sommes à 7 ici au Kassai occidental.
On a entendu qu'il s'agit d'une coordination. Est-ce que Dr Louis Akoulaï, qu'on vient d'entendre, travaille avec les partenaires, d'autres partenaires du secteur de la santé qui opèrent au Kassai occidental, et comment se fait cette collaboration, Julien?
Oui, parmi ces partenaires, on peut compter ACF, c'est l'Association de santé familiale. Le programme de cette association s'inscrit dans le cadre normal du programme national de lutte contre le paludisme. Parmi les objectifs, donc, on peut citer la réduction du taux de mortalité et de morbidité dû au paludisme chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et toute la population cible au programme, parce qu'ils sont des personnes, je dirais, vulnérables. À mettre également en compte, il y a l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, dont nous avons déjà parlé sur ces mêmes antennes, aux ménages à faible revenu. Tout ceci s'inscrit donc dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Je vous propose d'écouter encore une fois Dr Louis Akoulaï.
Il y a une initiative, une stratégie qu'on appelle « Faire reculer le paludisme ». Qui se base sur quatre axes principaux, notamment la prise en charge correcte et à temps des cas de malades. Vous savez, la plupart des malades ne décèdent pas à l'hôpital. Ils décèdent dans la communauté avant d'arriver à l'hôpital ou quelques minutes juste après être arrivé à l'hôpital. Donc la prise en charge correcte et à temps des cas des maladies est un des axes stratégiques que nous suivons. Il y a aussi la prévention avec l'utilisation de la moustiquaire imprégnée et le traitement présomptif des femmes enceintes. Vous savez que les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables par rapport à cette maladie. Et il y a une autre mesure préventive, c'est l'assainissement péri et intra-domiciliaire. Je crois que la population est en train de nous suivre. Le paludisme, c'est une affaire de tout le monde. Ne pensez pas que c'est seulement le service provincial qui peut arriver à faire reculer le paludisme. Nous avons des partenaires sur terrain, nous avons la communauté, tout le monde doit agir pour... Enfin, nous puissions avoir les résultats escomptés par rapport au paludisme. L'ASF est un de nos partenaires dans la lutte contre le paludisme, dans la mesure où il permet d'offrir des moustiquaires imprégnés aux femmes enceintes qui sont parmi les groupes vulnérables. L'ASF et bien d'autres, il y a Sanroux qui travaille avec nous, il y a Pémur, il y a d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons dans ce cadre-là.
Julien Yamoni, il y a un aspect important que le docteur a évoqué. Il a fait allusion au traitement des femmes enceintes. Est-ce que les femmes enceintes occupent une place particulière dans la mise en œuvre de ce programme?
Oui, tout à fait, Walter. Je l'ai dit il y a quelques instants. La preuve, c'est qu'il existe de produits de santé, notamment les préservatifs, la gamme Confiance, ce sont des contraceptifs, mais aussi de trousses d'accouchement appelées délivrance. Nous allons en parler dans quelques instants, mais avant d'y arriver, je vous propose d'ailleurs d'écouter Dr Irène Katobo, qui est coordinatrice provinciale de la santé et de la reproduction.
En ce qui concerne le problème de paludisme, nous savons que les femmes enceintes sont la population la plus vulnérable, qui est beaucoup touchée par le paludisme. Étant donné que la femme enceinte est déjà affaiblie par la grossesse, le paludisme l'attrape plus facilement et les manifestations comme l'anémie fait que la femme enceinte est beaucoup plus touchée par cette maladie. Donc, dans notre stratégie, dans la politique nationale en ce qui concerne la santé de la reproduction, nous préconisons que les femmes enceintes, au cours de la grossesse, suivent la consultation prénatale. Et lors de la consultation prénatale, elles doivent recevoir au moins 2 doses de Fansida. Et ensuite, elles doivent avoir la moustiquaire imprégnée d'insecticides.
Vous pensez qu'avec tout ce que vous avez comme femme enceinte au cancer occidental, vous pensez qu'on applique facilement cette instruction, cette chance, si vous voulez?
Elles acceptent facilement cette stratégie-là.
On a parlé des femmes enceintes atteintes de paludisme. Est-ce que, Julien, lorsque vous l'avez rencontré, Dr Irène Katobo, avez-vous abordé, ne fût-ce qu'un aspect des chiffres, des statistiques, le nombre des femmes enceintes atteintes du paludisme?
Oui, pour le cancer occidental. C'est elle qui l'a dit et peut-être elle va répondre cela dans quelques instants. Et elle disait que ça faisait au moins 45% des femmes enceintes qui sont généralement atteintes du paludisme. Et je vous propose d'ailleurs de l'écouter à ce sujet.
Oui, dans la stratégie de lutte contre la mortalité maternelle, avec l'appui de l'ASF, nous avons pu mettre sur pied une trousse d'accouchement propre qu'on appelle délivrance. Donc, dans cette couche de délivrance, on a un drap en plastique qui permet à la maman de s'allonger au moment de l'accouchement. Il y a un savon médical pour nettoyer les mains avant et après l'intervention. Il y a 2 paires de gants pour éviter les infections, que ce soit chez la mère, que ce soit chez l'enfant. Il y a 4 morceaux de gants, de gaz stérile pour nettoyer les périnées et aussi pour couvrir le cordon ombilical. Il y a 1 lame bistouri pour couper le cordon ombilical du bébé. Il y a des fistées stériles pour lier le cordon ombilical du bébé. Cette trousse permet de mener un accouchement sûr et propre. Et au moment de la grossesse, cette trousse doit déjà être préparée par chaque femme. Et chaque femme, quand elle doit venir accoucher, elle doit avoir... sa trousse, cela permet de réduire les infections et chez la mère et ses enfants. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui nous permet aussi de réduire la mortalité chez les femmes enceintes. Le coût est vraiment accessible à tout le monde. Cela est vraiment possible. Chaque femme peut se munir parce que quand une femme est enceinte, elle doit se préparer. Elle se prépare, elle a 9 mois de grossesse. Elle a tout le temps d'avoir la petite somme d'argent pour acheter des livrances. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde.
Voilà, Julien, on sait très bien que lorsqu'il y a de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, de sensibilisation, il y a ma foi parfois des réticences. Est-ce que l'Association des santé familiales a mis en place des stratégie en vue de changer, si vous voulez, les comportements, un peu comme dans la lutte contre le sida par rapport à ces nouvelles approches?
Oui, bien sûr. Il s'agit pour l'association Santé des familles d'utiliser actuellement des stratégies de communication envie d'amener la population à utiliser des produits pour la prévention de certaines maladies sexuellement transmissibles. C'est un peu comme on l'est fait avec la lutte contre les sida.
Julien Amoni, d'ici là, qu'on se retrouve pour un autre sujet en direct du Grand Kasaï. Merci beaucoup de l'avoir fait aujourd'hui pour le PALU et à la prochaine.
Merci Walter.
Comme vous le savez, on est résolument engagé dans le pipeline des élections libres, transparentes et démocratiques. Les élections, c'est facile à comprendre. Tout de suite.
Les élections, c'est facile à comprendre.
Na Kikongo na Nathalie Muteba, Bouyla Diaka, Jean-Goma Makoko.
Ce que sont les élections à la libre et démocratique. On se montre que ce soit le cas de la montre et que ce soit le
cas. Toujours la salle sans élection transparente. Yo vanda mbote, sa mbote katuka nan passe yaye. Sa mpasse ne lout.
Mouye son enge, hein? Mais zole yo louta bien. Muntu yani mwazi fwe kuenda, sana kupona muntu yake zola kingani, yo vando obligeve.
Nathalie, batu nyoso zola tukupona mayaki kuza salima, ya kuiza salima, na kimponza nyoso na mutindu ya bu demokrasi, pe na mesu ya bantu nyoso Nathalie, betu tubila bubu yai, mambu yina nyoso.
Beto yantika na nazina, yantete libre.
Yafwana kutuba ntititi kimponza ya kuponama kesalimina kalabandambu zole ya ntete ya kile yai ya batu kepona na dambu zole ya kile bantu yai baki kuza pona. Yafwana kutuba ntititi kimponza kuponama kesalimina ka na bandambu zole na dambu ntete ya kile bantu kepona pe na dambu zole ya kile yai ya bantu baki kuza pona.
Samna bantuke pona, kupona makele ya poleli ntangu bantuke na kupona bantuma na bao na lutumu na bao mosi.
Yaso na tubati, yafana ve ngeza bisa ntete ntete na ngekuza pona, pe bakuza tinda ve ngepona mutu kingandi to mutu yankaka.
Samna bantu ya ibaki na kupona, kupona makele ya poleli kana bao lenga tubila diambu ya kupona bao sika nyoso na ngemba nyoso.
Kuzabisa bangindu to kampany, kesaliminaka na bantangu tibimfuka ya ntwadisu to ya politik, kena kutubila bangindu na yao ya kukuza twadisia inti. Bangindu ya kutwadisia inti ya kele mukanda ya bimfuka ya ntwadisu to ya politik, kesungisaka na yao, mutindu ya kikuiza tomisina luzingu ya nkangu na ndambu ya jibwala na ndambu ya mbanza pena kati ya inti.
Kana bantu ya kupona lenga tubila diambu ya kupona bao na ngemba ve na kati ya insi ya mvimba, ya zona tubati kupona mayai kele ya polele ve.
Tango yai Nathalie, betu luta na ina metadila kupona ma kekuza salima na meso ya bantu nyoso. Kupona ma kesalima na meso na bantu nyoso ya kele kupona ma baki kubikaka na bantu mingi.
Ya ntete na ndamba bantu bake pona, ya kele bantu mwana bao yai kena kubongi sabisalu. Ya zole na ndamba bantu kena kupona, ya kele batanini tompe ba mwangisi nsanguti kele bantu mwa ya bantu na bisalu nyoso kena kusalama. Ya tatu na ndamba inza ya mvimba, kisalu kena kusalama na lutodusu ya batanini ya inza.
Kukuba maina ya kupona makisalima na mesu ya bantu nyoso ya kisalimina kena bandambo tatu. Ya ntete ya kile na bantu kekuza pona. Ya zole ya kile na bantu baki kuza pona. Pe ina ya tatu ya kile nkangu ya inja.
Ya sirika sa muti kupona mana mutini ya kidemokrasia ya kile ina kena kuzitisa mikano ya kidemokrasia. Nzo kande kidemokrasia kena kukanga manangendu ya kimpwanza mpe ya inswa.
Yao ina kana kupona mame kuza salimina na kimpwanza pe na meso ya bantu nyoso ya kekuza vwanda kaka kupona make salima na mutindu ya demokrasi.
Bapo na kamobutu na makumi ivo na ivo na ndambu samu na nkama mosi na mvula difunda mosi kama ivo makumi nana na zole.
Na ntango ya luyalu ya zole bakupona makuza kasalima tatu. Ya ntete ya kuzaka selima na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi ntambwadi ya zole na difunda mosi nkama ivwa makumi ntambwadi na ntambwadi peyi na ntuka ya selimaka na difunda mosi nkama ivwa makumi nana na iya mtu ya evandaka bakuza pona ya evandaka kantwadisi ya iti ya ndimosi
kupona mayai vandaka ya polele ve mpe ya demokrasia ve.
Oh
Okapi.
Okapi.
En FM, sur Internet, par satellite.
Okapi.
Okapi, la radio proche de vous.
Okapi.
Monsieur Jean-Carré Machimba, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes coordonnateur provincial de l'Association de santé familiale pour le Kassai occidental. Vous avez mis sur pied une nouvelle stratégie en vue de assurer une bonne prévention, une bonne prise en charge des malades, soigner les femmes enceintes et renforcer la prévention. Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain dans l'approche vers les populations?
Merci beaucoup. Pour nous approcher de la population au niveau de notre province, nous sommes en train de procéder par tout moyen de communication utile afin d'atteindre toute la masse. Nous organisons des séances de sensibilisation à travers les couches sociales de la population. Nous transmettons des messages pour le changement de comportement. Nous donnons tous ces messages juste pour amener notre population à accéder à la culture de la prévention de la lutte contre le paludisme en utilisant la moustiquaire imprégnée. Et nous mettons à la disposition de la population des produits de santé juste pour pouvoir améliorer son état de vie et pour mener une vie saine.
Vous dites qu'il faut arriver au bout de compte, que certains indicateurs, la réussite de votre message serait que les gens, en tout cas, puissent changer de comportement. Est-ce que vous avez observé quelques changements de comportement auprès des habitants dans quelques villes du Kassai occidental?
Oui, certainement. Lorsque nous avons lancé notre programme il y a 2 ans, les statistiques que nous avions menées nous rapportaient que sur une population d'à peu près plus de 5000 ménages, on pouvait retrouver pratiquement pour la moustiquaire imprégnée moins de 20 moustiquaires sur la ville. Et aujourd'hui, on en a livré plus d'une quarantaine. Donc nous trouvons que la population est en train de changer, la population est en train de comprendre qu'il faudrait se protéger par l'utilisation de cette moustiquaire. Nous étions affrontés devant un problème de culture selon laquelle, pour certaines personnes, en voyant que la moustiquaire se lève comme une cage au-dessus du lit, et cette moustiquaire, pour certains, ils pensent que ça étouffe. Et pourtant, ça préserve contre les piqûres de moustiques. Les moustiques sont le seul agent, le vecteur transmetteur de la maladie. Et nous sommes en train de cibler cette population par des séances comme, par exemple, à la CPN et à la CPS, juste pour doter ou toucher facilement les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus vulnérables. Nous lançons des messages sur la radio et même sur la ville, nous avons élevé des panneaux publicitaires, panneaux routiers, Serena, dans les 4 coins de la ville, juste pour lancer le message du changement de comportement et amener notre population à pouvoir se protéger contre ce fléau.
Et si je vous ai bien compris, en ce qui concerne la distribution, ou si vous voulez, l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, vous avez dit être passé de 20 à 40 en 2 ans. Ce n'est pas quand même énorme.
Par rapport à la culture, par rapport à l'accessibilité de coins et de milieux, nous sommes sur la bonne voie parce que chaque jour, les demandes affluent. Les demandes sont plus nombreuses. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que chaque maternité, chaque hôpital de notre province, notre ville, chaque lit est à plus ou moins 80% couvert de moustiquaires imprégnées. Et c'est déjà un grand atout. Et aujourd'hui, c'est toute la population qui peut du moins se rassurer qu'il y a un moyen sûr de se protéger contre le paludisme en dormant sous moustiquaire. Et nous continuons ces efforts juste pour que jusqu'au dernier citoyen de notre ville puisse dormir sous cette moustiquaire afin de se protéger contre les piqûres de moustiques.
Mais dans les hôpitaux, c'est pas surprenant qu'on puisse avoir au moins 80% de lits avec la moustiquaire imprégnée parce qu'ils sont déjà malades, ils n'ont pas le choix de se faire couvrir comme ça, mais c'est plutôt l'effort à faire dans les villages, dans les milieux en dehors des hôpitaux, et c'est là que vous devriez le faire. Nous sommes d'accord, j'en suis sûr, mais combien coûte une moustiquaire imprégnée dans le Kassai occidental?
La moustiquaire imprégnée au Kassai occidental coûte pratiquement 3 dollars. C'est un prix national que l'ASF a lancé, un prix fortement subventionné. C'est 3 dollars, bon, l'équivalent de 1200 francs ici chez nous. Et cette moustiquaire, nous l'amenons juste aussi dans le coin reculé de notre province. Je vous dirais qu'il y a un mois, nous avons mené cette campagne de l'utilisation de la moustiquaire imprégnée ensemble avec notre partenaire Sanrou dans le milieu rural du Cap Occidental. Nous avons été jusqu'à plus de 700 km, 1000 km de Kananga, juste pour pouvoir donner et distribuer cette moustiquaire à un prix fortement subventionné, je dirais à 1 $, à la population, de sorte que même la population la plus riche qu'il est de notre ville, même dans le village, on puisse retrouver la moustiquaire que nous sommes en train de véhiculer comme l'un des moyens les plus sûrs pour se protéger contre le paludisme.
Mais il y a une question d'un auditeur de Kinshasa, c'est une dame, Belinda qu'elle s'appelle. Belinda voudrait savoir quelles sont les conséquences du paludisme mal soigné sur l'enfant qui va naître.
Oui, pour ce qui est comme conséquence des paludismes mal soignés, ça nous amène facilement à l'anémie, ça amène à la perte de connaissance. Le paludisme mal soigné amène fatalement à une vie désastreuse, ça tue, et le paludisme amène facilement à la mort. Et lorsque les mal soignés, ça tombe dans le cas de complications, et qui est le paludisme grave. Et là, il y a perte de mémoire, il y a l'anémie, il y a aussi l'amaigrissement, il y a de fatigue qui se manifeste de manière généralisée. Et ces conséquences sont à éviter lorsque nous allons dans la prévention pour dormir sous moustiquaire, c'est-à-dire en évitant les piqûres de moustiques.
Alors, vous nous avez dit que vous vous butez à un sérieux problème qui est celui de la culture, d'une certaine mentalité, un comportement vis-à-vis de la moustiquaire imprégnée. Ceci va être ma dernière question. Est-ce que vous allez adapter vos stratégies d'approche vers les populations pour faire obtenir davantage de moustiquaires imprégnées aux populations qui vivent au Kasaï occidental?
Dans notre objectif, le souci, c'est de réduire la morbidité et la mortalité due au paludisme auprès des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans, d'une part, et d'autre part, de stimuler la demande de moustiquaires imprégnées dans le ménage, en considérant le moustiquaire comme un produit nécessaire pour la santé de la famille. Notre programme vise, dans sa deuxième phase, à étendre un réseau de distribution avec toute l'organisation qui a des bases solides sur terrain, de sorte que nous puissions atteindre les masses. Nous comptons enrichir les activités de masse qui vont toucher aussi bien des cibles que la population générale. Et c'est une manière pour le programme d'impliquer toute la communauté à participer à la lutte contre ces fléaux qui déciment nos populations. Nous adaptons notre message compte tenu du milieu. L'ASF est un leader de marketing social dans notre pays et nous menons le marketing social de sorte que nous puissions changer les comportements de toute la population. C'est pourquoi l'association de santé familiale multiplie juste des interventions grâce au fonds du FID que nous avons juste pour la moustiquaire imprégnée. Nous attaquons toute la population et à tous les niveaux, et aussi nous mettons non seulement la moustiquaire imprégnée, parce que la mortalité provient de plusieurs sources, nous militons aussi à travers à combattre la mortalité de femmes due aux accouchements avec une trousse de maternité après délivrance, de sorte qu'elles puissent mener des naissances propres et sûres et que toute la population soit vraiment visé. Nous menons des sensibilisations dans les églises, dans les écoles et peu partout, de sorte que dans les milieux de militaires, et dans les états-majors militaires et policiers, et même dans, quand on atteint les partis politiques et les bâtiments administratifs, nous avons été dans les écoles, juste pour pouvoir amener la population à changer de comportement, accéder à cette moustiquaire.
Voilà, Monsieur Jean-Carré Machimba, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et vous souhaite succès dans la poursuite de votre programme de lutte contre le paludisme au Kasaï occidental.
Merci Walter.
Et voilà. Le mardi passé, nous avons évoqué la question du rapatriement probable au mois d'avril prochain des réfugiés congolais vivant à Bétou au Congo-Brazzaville. Mais déjà au mois d'octobre 2004, le Haut Commissariat pour les réfugiés avait procédé au rapatriement de plus de 1800 Congolais réfugiés en République centrafricaine. Ce rapatriement s'est effectué principalement dans les différentes localités et territoires du sud au Bangui, dans la province de l'Équateur. Pour en parler, ce sont les dernières pages des notes des voyages de notre confrère Marcel Ngombo Mbala. Marcel, bonjour.
Bonjour, Walter.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation de ceux qui étaient déjà rentrés de la République centrafricaine ?
En tout cas, un bon nombre de rapatriés que nous avons rencontrés, notamment dans les territoires de Guémena et Libengué, sont loin d'être satisfaits de leurs conditions de vie. Surtout dans les territoires de Libengué où sont retournés plus de 60% des rapatriés. Ceux-ci se plaignent des mauvaises conditions du logement et des difficultés de se nourrir.
C'était quand même un retour bien organisé, bien planifié. On imagine bien que le HCR avait pris certaines dispositions en vue de ce retour dans leurs différents lieux d'origine, Marcel.
Bien entendu, à leur arrivée, le HCR avait mis à leur disposition des vivres tels que ces moules, huiles, mais également des articles tels que seaux, couvertures et des bâches pour s'abriter. Mais la plupart d'entre eux estiment qu'il faut encore davantage plus d'assistance, surtout pour le logement, suivant les témoignages de quelques rapatriés que nous avons abordés à Libengué.
Nous avons réfugié à Molangé, nous avons à peu près 4 ans. Molangé est en Centrafrique, dans la province de l'Obaï. Dans la zone de Koto, dans la zone, nous avons assistance à bien pendant la zone. Nous avons déjà réfugiés, nous avons déjà des provinces dans tout. D'autant la zone, nous avons eu un cancer, nous avons eu des choses pour avant que nous avons eu commerçants. Nous avons eu pillé, nous avons eu rien. Pendant que nous avons eu un zone, assistance avons eu bien pour nous démarrer dans la zone, nous avons eu un zone. Nous avons eu un côté, nous avons eu un zone, nous avons eu un zone loué. Donc loué peine la difficulté dans ce bunaka kamwa
nazai refusé congolais na tikaki awa na kena mboka Centrafrique et na uti kozonga awa na le 26 octobre 2004 tango na zongi awa izaika kate tango na komi na arrivé na ngai awa benenge ba recevoir ce de le début et loko ezala kiteki na le bonenno situation malonga pe izete botala koma na zo vivre na famille a manger zena kaka mingi awa na koma ki singe zaika ka pesinga bash ba pesinga semoule ba pesinga huile a part na et puis Nous avons les langues à terre, 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 nous avons les langues
à terre, nous avons les langues à terre, nous avons les langues à terre, nous avons les langues à terre, nous avons les langues à terre, nous avons les langues à terre, nous avons les langues à terre, nous avons les langues à terre, nous avons les langues à terre, nous avons les langues à terre, nous avons les langues à terre,
nous avons les langues à terre, nous avons les langues à terre, nous avons Alubaki soe tozongi, bako pisa bisu mwandamu na mbongo. Tosa isa na njoto, bo sikao tozongi wa tozimbongo te. Bako tunga bisu ndako, kutunga ndako ezalite. Bapo ni beba tona mawa. Bo bisu ba oyu, toza na ilangate, ndako te. Lezo pisa bisu kaka, njalapi, botukulia wapi.
Voilà, ce que j'adore, c'est le ton du lingala pur de l'Équateur. Marcel, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots ces revendications?
Bon, c'est juste là les témoignages, comme je le disais, de tous ces rapatriés qui sont rentrés, qui avaient tout perdu. Quand ils sont partis, ils sont revenus, ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien. Alors, surtout pour ce qui est du logement, ils disent que bon, c'est bien, c'était bien pour le ICR de nous donner de la semoule, de nous donner de l'huile, c'est bon, mais ils auraient aimé avoir surtout beaucoup plus d'assistance pour les logements et aussi peut-être une aide financière pour se nourrir. Donc c'est vraiment ça le plus grand de leurs soucis.
Donc quelle que soit la beauté du style et du langage, ça exprime malheureusement une tristesse. Marcel Gombo, revenons à nos moutons. En dehors de cet aspect, est-ce que l'accès à l'éducation et aux soins de santé leur est-il favorable?
De ce côté-là, ils sont unanimes à reconnaître la gratuité des soins, mais aussi de l'enseignement pour ce qui est des enfants rapatriés scolarisables. À Libengué, par exemple, sur 759 enfants rapatriés en âge scolarisable, au moins 698 enfants sont à l'école. Mais il faut noter que le HCR et d'autres ONG internationales donnent des frais de motivation pour les personnels infirmiers et enseignants pour leur permettre de bien faire leur travail. À Guémena, le HCR a même réhabilité quelques écoles et l'hôpital général de référence de Guémena.
J'ai vu des images de cet hôpital hier sur certaines chaînes de télévision pendant la distribution d'un kit UNICEF pour des femmes enceintes et on a bien vu le panneau et que l'hôpital avait été réhabilité. J'ai été passé par Guémena il y a peut-être 5 ans de ça, ça n'était pas dans cet état. Donc je peux confirmer qu'il y a eu des travaux. J'ai vu sur les images, c'est pas comme les feux dire, mais parce que j'ai des images intérieures. Mais Marcel, pour revenir au sujet, des rapatriés font des préoccupations sur les conditions de logement et les moyens de survie. C'est ce qu'on a noté. Que fait le HCR pour y remédier?
Un effort est tout de même entrepris de la part du HCR, mais là encore, cela n'est pas du goût de tous les rapatriés qui se considèrent tous comme personnes vulnérables, ce qui n'est pas de l'entendement du HCR. Toutefois, je vous propose de suivre le chef de bureau HCR Guémena qui parle des actions menées par le HCR pour trouver quelques solutions à ce problème de logement et de moyens de survie de rapatriés. Écoutons Mamadou Ndoa.
Il y a la construction de maisons individuelles pour les vulnérables. Une cinquantaine de maisons sont prévues sur le programme de Guémena et les constructions vont bientôt démarrer. L'identification des bénéficiaires a été faite. Et étant donné également que la plupart des rapatriés qui ont été identifiés et bénéficiant de ce programme n'ont pas eu de maisons propres à eux-mêmes, nous avons entrepris des démarches auprès des autorités pour solliciter également leur contribution par rapport à ce programme de rapatriement. Et les autorités nous ont octroyé trois sites. Il y a le site de Libengue-Moké, le site de Lac et également un troisième site qui se trouve vers Okomigem qui pourrait dans le futur abriter, permettre à construire plus d'une 150aine de maisons pour les vulnérables. Il y a également des activités génératrices de revenus pour des groupements de femmes rapatriées, notamment en faveur de quelques groupements de femmes qui ont été identifiés. Il y en a même qui ont commencé des boulangeries et qui peuvent produire jusqu'ici, d'après les dernières informations que nous avons recueillies lors de notre monitoring, à peu près 300 pains par jour, quoi, ce qui est un résultat considérable.
Mamadou Ndoa, du HR, bureau de Libengue. Il faut reconnaître pardon, que ce n'est pas du tout chose facile pour reprendre une nouvelle vie lorsqu'on a vécu au moins 5 ans en refuge dans un autre pays, qu'on revient chez soi, qu'on a été pillé, qu'on doit tout reprendre à zéro. Les regards ne peuvent se tourner d'abord que vers ces organisations humanitaires. En ce qui concerne les réfugiés en tête, c'est le HR, évidemment. Mais est-ce que le HR travaille en partenariat avec d'autres ONG locales, congolaises, notamment, qui peuvent s'occuper de l'encadrement social ou de poursuivre la réinstallation définitive?
Cela est bien le cas à l'exemple de cette organisation non gouvernementale dénommée AIDES, Action et Intervention pour le Développement et l'Encadrement Social, qui travaille en étroite collaboration avec le HCR, suivant un de ses représentants que nous avons rencontré à Guémena.
Le besoin est énorme, le besoin est vraiment énorme. En ce qui concerne la formation, par exemple, il suffit de sillonner. Rien qu'au centre Guémena ici, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de bancs, qui n'ont pas de livres, ça n'en parlons même pas. C'est vraiment catastrophique, vous voyez, le pays est sorti de la guerre, bon, il y a beaucoup de besoins. En ce qui concerne le social, il n'y a pas, le système économique a été délabré, bon, on est là devant toute cette population qui est dans les besoins. Il y a beaucoup de produits locaux qui sont là, qui ne sont pas achetés, bon, tout ça c'est l'effort qui est pratiquement anéanti, voyez ça. Alors nous sommes là devant cette population et ça fait mal, mais nous n'avons pas assez de moyens pour agir. Nécessairement, les HR feraient mieux d'augmenter le financement parce qu'il y a beaucoup à faire.
Toujours le même refrain, augmenter le financement qu'on demande au HR, qui on le sait n'est pas aussi une agence bailleresse de fonds, c'est une agence technique qui obtient aussi des fonds d'autres bailleurs. Ce sont des étages à comprendre, on le saura tout à l'heure avec Jens qui est là déjà en studio. Marcel, merci pour nous avoir fait vivre au rythme de la vie comme elle va dans les camps des réfugiés ou dans les sites de nouveaux retournés. C'était la dernière page de vos notes de voyage.
C'était le jour, aujourd'hui, en fait, on boucle la boucle.
On boucle la boucle. Merci Marcel.
Okapi, action 081 89 0 68 90.
Merci Rémi César Tchamala de m'avoir rappelé ce numéro de téléphone pour nos auditeurs parce que je m'occupais de l'inviter tout à l'heure. Alors, Jens, vous êtes chargé des relations extérieures du HR, bureau de Kinshasa. Rebonjour.
Bonjour Walter, merci pour nous inviter encore une fois.
Voilà, on vous invite pour parler de ces sujets. On vient de l'attendre, ceux qui étaient déjà rentrés de la reprise centrafricaine disent oui, merci HR, mais on a encore besoin de davantage d'aide.
Oui, voilà. On a eu une première phase de rapatriement de la République centrafricaine en Équateur. Quand on a écouté les rapatriés, ils ont déjà reçu quelques soutiens d'assistance. Il y a une deuxième phase de l'assistance quand on va commencer avec le rapatriement de la République du Congo, les Congo-Brazzaville. Même les rapatriés de la République centrafricaine, ils vont encore recevoir un paquet d'abris. Qui va les donner la possibilité de construire leur maison propre et même encore une deuxième ration de vivre pour 3 mois. Mm.
Mais alors, on a entendu qu'ils aimeraient avoir notamment du matériel pour faire les champs, du matériel de construction, parce que le kit qui leur a été donné, ça ressemble à un kit d'urgence. Là, c'est pas un kit de réinstallation.
Absolument, absolument. I mean, c'est un kit de réinstallation initiale.
Ah, okay.
Et on va les donner le pouvoir de construire leur propre maison. Hein. Peut-être pour donner un peu de détails,
oui.
Ils vont recevoir des outils, des machettes, mm-hmm. des ficelles, des clous et encore des bâches pour construire des maisons avec les matériaux qui sont disponibles sur place, ça c'est l'idée. Et en même temps, on sait qu'il y a des vulnérables parmi les rapatriés.
Oui.
Et les vulnérables, ils vont recevoir une assistance spéciale pour la construction des abris, des maisons. Et les HR et partenaires, ils vont s'engager dans la construction même.
C'est ce que j'ai noté d'intéressant tout à l'heure avec Marcel, c'est sur au moins 750 enfants qui ont été rapatriés en aide scolarisée, 698, presque 700 sont à l'école. Ça, c'est un exploit. Hein.
Oui, ça c'est très important pour nous parce que pendant les consultations avec les réfugiés dans la République centrafricaine et Congo-Brazzaville, il y a eu une occupation avec la question de scolarisation et des écoles. C'est très important pour les réfugiés qui veulent rentrer, que leur enfant peut attendre l'école là-bas. Pour ça, on s'engage dans la réhabilitation des écoles en Équateur, quelques bâtiments. On fournit les matériaux, les matériaux scolaires même, pour ces écoles. Voilà. Et peut-être pour souligner le travail avec partenaires. C'est,
oui, les partenaires locaux, c'est comment que vous fonctionnez avec eux? Voilà. Par exemple, on a cité Aide tout à l'heure, Aides qui est avec vous à Guémena.
Absolument. Il y a Aides qui font de très bon travail sur le plan social, directement avec les vulnérables et les enfants. Il y a aussi Iroquin qui est soutenu par la GTZ, qui s'occupe avec la réhabilitation des infrastructures et des routes et des écoles. Il construit des puits et des latrines dans l'école congolaise qui existe déjà. Il y a aussi, j'aimerais souligner, la Commission nationale pour les réfugiés, c'est une institution gouvernementale qui est un partenaire clé pour la HR sur la question de rapatriement des réfugiés. Ils sont sur place à Libengue et Guémena, ils donnent un grand soutien et ils sont aussi un point de contact pour les rapatriés pour discuter leurs besoins et la réalisation de l'assistance.
On a entendu tout à l'heure un représentant de Aides, notamment, dire qu'il y a beaucoup à faire, qu'ils aimeraient que les HR augmentent l'enveloppe des financements. Qu'est-ce que vous avez vous demandé au niveau du HR dans le Global Appel, dans l'appel d'offres globales pour 2005 par rapport à toutes ces grandes opérations? Parce qu'il faut dire que 2005, le HR va mener des grandes opérations de rapatriement.
Absolument. Notre chiffre de planification sur le retour volontaire, ils sont 24 000 rapatriés dans la zone de l'Équateur et même d'assister peut-être des rapatriés spontanés aux autres endroits en RDC. Mais enfin, les chiffres de rapatriement dépendent des décisions des réfugiés, parce que c'est le retour volontaire.
Volontaire, oui.
Enfin, on peut juste dire, ok, peut-être on planifie que 24 000 rentrent, mm-hmm. et enfin, c'est leur décision. Oui, sur les questions de financement, on a un programme prévu, comme j'ai dit avant, il y a des soutiens sur le niveau des écoles, hôpitaux, des vivres, en coopération avec la PAM et non-vivres. Mm-hmm. Et enfin, il y a aussi l'abri et tout ça. Ce programme, ça dépend directement du soutien des bailleurs de fonds aussi. On est en coopération avec principalement des États qui financent l'HCR pour donner l'aide aux rapatriés. On dépend d'un financement directement. Et j'étais très content qu'on a eu la possibilité de visiter les zones de retour ensemble avec
avec vos bailleurs de fonds.
Voilà, ah. Avec un très important partenaire, ça, là, avec Marcel. C'est le bureau de la Commission européenne pour l'aide humanitaire, ECHO.
ECHO, oui.
Et je crois que ça s'est bien passé, ils ont vu les besoins, ils ont donné leur soutien, ils ont nous donné leur idée sur le programme d'assistance, et ça a nous aidé.
Et voilà, on sait très bien, c'est une question qui me tient moi à cœur, est-ce que lorsqu'il y a des réfugiés qui sont même dans un pays ou qui rentrent, il y a un impact sur l'environnement, c'est notamment les besoins en bois, les besoins en tout ceci, parce que la pression sur les forêts grandit avec l'arrivée de ceux qui rentrent, des rapatriés. Est-ce que vous tenez en compte cette donnée-là de l'impact sur l'environnement lorsqu'il y a des réfugiés qui rentrent?
Bien sûr, on essaie toujours de faire la sensibilisation avec notre partenaire pour les rapatriés, pour qu'ils ne détruisent pas l'environnement, mais c'est toujours un problème. Et même s'il y a un influx de masse des réfugiés dans notre pays, il y a toujours un impact sur l'environnement. Bon, pour la question du retour à l'Équateur, on va essayer de trouver des matériaux qui ne détruisent pas vraiment l'environnement. Et on va essayer de faire la sensibilisation pour les rapatriés, qu'ils prennent des actions qui sont aussi volontaires pour l'environnement.
Mmh, mmh. Alors, est-ce qu'on confirme qu'au mois d'avril, les réfugiés qui sont notamment à Bitou, au Congo-Brazzaville, vont commencer à être rapatriés au Congo-Kinshasa, notamment la province de l'Équateur?
Oui, c'est ça.
C'est confirmé.
Oui, c'est confirmé. On a planifié de commencer le mouvement de retour au mois d'avril. Mmh. On est en train de mettre en place le plan logistique et les moyens de transport. Ça va être une question très importante, de trouver les bateaux et les barges pour traverser le fleuve d'Ubangi. Oui. C'est un grand fleuve et même pour peut-être s'engager dans la réhabilitation des routes et tout ça. Ça va être très important. Mais c'est prévu qu'on commence au mois d'avril.
Okay.
Et on dépend des décisions des réfugiés à environnement des bateaux pour entrer.
Voilà. On me dit que c'est possible de parler à un des partenaires bailleurs de fonds du HR. C'est Monsieur François. Dis-moi qu'on va avoir tout de suite. Il est en ligne au téléphone. Monsieur François, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes membre de ECHO, la commission humanitaire de l'Union européenne. Vous avez été, vous avez effectué cette mission avec le HR. Vous avez pris la mesure des besoins. Est-ce qu'on peut espérer que davantage ECHO va appuyer très fortement le HR pour ces grandes opérations de rapatriement?
Oui, tout à fait. Il faut savoir que donc ECHO, qui est l'office d'aide humanitaire de la Commission européenne, est un des plus gros financeurs ici de l'aide humanitaire. Et c'est, pour donner une idée, c'est à peu près 50 millions de dollars par an qui sont distribués auprès des organisations internationales au Congo depuis maintenant 5 ans. Le HCR est effectivement un de nos partenaires privilégiés pour par rapport à son mandat, qui est l'appui au rapatriement et l'appui aux réfugiés. Donc effectivement, nous pensons les appuyer fortement sur cette opération de rapatriement des Congolais qui sont actuellement sur la République du Congo à Brazzaville.
Mmh. François Goemans, on a entendu certains de ceux qui étaient déjà rapatriés depuis la République centrafricaine qui sont notamment à Libengué dire qu'ils ont besoin d'un kit plus consistant, c'est-à-dire pour leur permettre d'être indépendants, notamment le matériel agricole, maison et autres choses. Est-ce que vous allez appuyer cela?
Oui, de façon plus globale, nous finançons la FAO, qui a un programme pour pouvoir aider, apporter un kit de relance agricole pour les personnes vulnérables ainsi que pour les rapatriés. Donc cet appui va avoir lieu. Il faut savoir qu'il y a aussi le PAM qui fait la distribution de nourriture et qui va continuer cette distribution pour les aider. Au niveau des autres programmes qui consisteront à les aider pour leur réinstallation plus durable, on compte aussi sur les bailleurs de fonds de l'Union européenne concernant le développement pour les appuyer.
Mais en dehors de la province de l'Équateur, c'est une occasion de vous avoir en ligne maintenant. Ça va être ma dernière question. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée d'autres interventions financières que vous faites dans le cadre humanitaire en dehors de la province de l'Équateur, ailleurs en RDC?
Donc effectivement, dans la province de l'Équateur, nous sommes excessivement présents au niveau de la TWAPA. Nous finançons Médecins sans frontières Belgique ainsi que l'organisation italienne qui s'appelle COPI à hauteur de 5 millions de dollars par an depuis plusieurs années, qui consiste à offrir les soins de santé primaires accessibles à toute la population. Donc c'est un très gros investissement de la part de la Commission européenne de l'Office humanitaire afin que toute cette population qui a beaucoup souffert de la ligne de front et des combats qui ont eu lieu pendant ces dernières années puissent avoir accès à ces soins et se relancer maintenant pour retrouver une vie digne et puissent maintenant prospérer.
Mais là, vous avez cité des agences internationales. Et qu'est-ce que les ONG congolaises peuvent espérer comme mode de partenariat avec vous et comment est-ce qu'ils peuvent contacter ECHO?
C'est une excellente question. Pour des raisons de transparence financière et de rapidité d'utilisation des fonds d'urgence ECHO, nous passons par les agences internationales, mais ces agences internationales travaillent avec des partenaires d'implémentation qui sont bien souvent des ONG locales et qui sont donc ces partenaires-là. Donc il n'y a pas d'adresse directe de ces ONG auprès de ECHO, mais elles peuvent s'adresser indirectement à travers des ONG internationales pour recevoir des financements. Je vous citerai un exemple, l'exemple d'une ONG ASBL congolaise qui s'appelle Aframes, qui s'occupe de l'approvisionnement en médicaments essentiels dans la province du Nord Kivu. Et cette association, maintenant, a été financée par ECHO à travers un partenaire hollandais et continue à être financée par l'Union européenne, par les fonds de développement. Donc il y a tout à fait accès aux organisations congolaises, aux fonds de l'Union européenne, mais de façon indirecte à travers les ONG internationales.
Ok, alors ce que je voudrais savoir, est-ce que quand même il y a un kit d'information assez général par rapport à ce mode d'intervention des ECHO, parce que ma foi, lorsque les informations ne sont pas bien transmises, les ONG congolaises peuvent croire que ECHO ne veut pas directement traiter avec elles.
Absolument, on travaille en toute transparence, c'est plus important, le message de la Commission et de son aide humanitaire. C'est un message de solidarité envers la population qui souffre. Donc, dans cet esprit de message de solidarité, il y a une transparence totale. Alors, pour avoir de l'information, il y a deux moyens directs. Le premier moyen est à travers Internet. Il y a le site Internet de ECHO, à travers la Commission européenne, où les gens peuvent chercher l'adresse exacte. Et vous avez aussi la délégation de l'Union européenne à Kinshasa, ainsi que les bureaux. Donc c'est à l'immeuble des CDC et vous avez un représentant de ECHO qui est à Kinshasa ainsi que deux représentants, l'un sur Bukavu et l'autre sur Goma. Ils sont très bien connus dans ces zones-là et ils reçoivent à bras ouverts les gens pour les demandes d'informations.
Monsieur François Guemas, au-delà des programmes humanitaires au sens de phase d'urgence, allons au-delà de l'urgence pour les durables. Lorsqu'il y a ce passage-là de la phase urgente à la phase de réinstallation, comme on dit, quelles sont vos priorités actuellement dans vos axes d'intervention en République démocratique du Congo?
Excellente question. Pour nous, il est très très important que le passage entre l'aide humanitaire d'urgence et l'aide au développement se fasse en continu. Et donc, nous avons des enveloppes financières du Fonds européen de développement qui sont spécialement adaptées pour cette phase de lien entre l'urgence et le développement. Notre accent actuellement est mis, disons, sur deux axes. Le premier, c'est sur la santé. Il nous paraît très important d'offrir à la population congolaise une santé accessible. Et donc, ces fonds sont dirigés pour reprendre des projets d'urgence que nous avions, pour les continuer, pour aller vers le développement, pour les accompagner au niveau du développement. La deuxième stratégie sera ce qu'on appelle plus globalement la sécurité alimentaire. 80 à 90% de nos bénéficiaires sont d'origine rurale et il s'agit de les aider à pouvoir accéder de nouveau à leurs terres, replanter, pouvoir cultiver et pouvoir récolter afin que l'économie puisse reprendre. Donc voilà les deux principales priorités que l'on peut exprimer sur ce lien entre l'urgence et le développement.
Voilà, je parlais tout à l'heure avec Jens Heisenmann par rapport à l'impact du flux des réfugiés ou des personnes qui rentrent sur l'environnement. Et, au niveau de ECHO, quelle est l'importance que vous accordez, notamment à la préservation de l'environnement lorsqu'il y a tous ces mouvements?
Alors effectivement, nous avons plusieurs réponses. Bon, ce que je voudrais quand même préciser, c'est qu'on parle du retour des réfugiés. Pour nous, il est aussi important de traiter du retour des personnes déplacées, qui ont été déplacées par les combats.
Oui,
il n'y a pas de différence pour nous de traitement entre ces différentes catégories de personnes. Ce que l'on regarde, c'est la vulnérabilité. Alors, c'est vrai que le retour des gens peut entraîner des problèmes au niveau de l'environnement. Donc, nous avons un programme au niveau de l'Union européenne notamment au niveau des parcs nationaux, pour éviter que la population vienne se saisir des ressources bois et autres dans ce parc, pour les aider à s'installer en bordure du parc. Autrement, de façon très concrète, lorsque nous avons une surpopulation dans un milieu, pour éviter qu'il y ait trop de tracas au niveau de l'environnement, nous appuyons notamment des aides au niveau du bois de chauffage, du charbon, afin que les gens n'aillent pas détruire n'importe quelle espèce d'arbre, mais qu'ils soient encadrés. Donc je citerai notamment ce programme-là au niveau du Bas-Congo et du Bandundu, avec l'appui aux réfugiés angolais, où nous avons toujours soutenu cette opération de bois de chauffe pour que les gens n'aillent pas faire n'importe quoi.
Et pour toutes ces informations, il faut retenir que les agences concernées, les ONG congolaises notamment, devraient les obtenir au niveau du bureau de représentation de l'ECHO à Kinshasa. Où est-il situé?
Il est situé au boulevard du 30 juin, à l'immeuble BCDC, le grand immeuble, au 14e étage. Et donc là, vous pouvez tout à fait prendre les informations, mais surtout sur Internet, où il y a accès à toute l'information générale sur ECHO.
Et c'est quoi, les sites Internet de ECHO?
Absolument, donc le site Internet de ECHO, alors là je l'ai, donc il faudra faire sur le moteur de recherche, taper Commission européenne ECHO et vous l'aurez, parce que heureusement, si je n'ai pas en tête, il est assez complexe.
Ok, d'accord, on va peut-être essayer de le faire ici, parce qu'on a Internet à nos bureaux et on demandera, d'ailleurs il y a Nathalie Mouteba, ma consoeur, qui va essayer très vite d'aller dans le moteur de recherche et d'ici là, qu'on finisse l'entretien, on aura trouvé. On vous garde en ligne, François Guémans, une question que je pose à Jens Heisenmann. Voilà, on est là face à face à ECHO, qui est un de vos bailleurs de fonds, et vous Acher qui est sur les terrains. Les réponses de M. François Guémas de ECHO rassurent et confirment que plus que jamais, le rendez-vous d'avril pour le retour des réfugiés congolais qui sont à Bétou n'est plus qu'une question de jour.
Oui, absolument. J'espère qu'en coopération avec notre partenaire, notamment ECHO et les autres bailleurs de fonds, le PAM, l'UNICEF, le FAO et les ONG locales et internationales, j'espère qu'on peut vraiment aider les réfugiés dans la République du Congo, les réfugiés congolais et aussi les réfugiés dans la République centrafricaine, de trouver leur pays d'origine. Et je crois avec ces coopérations-là et aussi sur le terrain avec ECHO, je crois qu'on a eu des très bonnes discussions et on est convenu sur quelque chose de base. J'espère qu'on va avoir un bon soutien là, en avril.
Voilà. François Guémans, vous êtes toujours en ligne?
Oui, absolument.
Voilà. Et une question que je vous pose. Vous, en tant qu'agence de financement, il se pose parfois des problèmes auprès des ONG partenaires qui reçoivent vos financements. Il y en a qui perdent le partenariat du fait d'avoir mal géré les projets et donc ils ne sont plus éligibles à une reconduction des financements. Quels sont les critères que vous avez au niveau des ECHO pour sélectionner les partenaires aussi bien directs ou les partenaires au troisième degré qui sont avec vos partenaires?
D'accord. Alors, concernant les agences internationales, les ONG internationales que nous finançons, il y a préalablement une enquête qui est faite pour s'assurer qu'il y a une bonne gestion des financements, une transparence des fonds, une transparence des budgets, qu'il y ait un expert comptable qui puisse suivre tous ces projets. Et puis, ce qui est très important pour nous, c'est de s'assurer que le personnel qui va être utilisé pour les opérations, le personnel aussi bien expatrié que national, ce personnel soit qualifié et compétent. Donc, nous faisons ces vérifications préalablement. Et lorsque c'est bon, ces gens sont agréés à pouvoir collaborer avec ECHO. Mmh. Au niveau des partenaires qui implémentent des projets pour une agence internationale, c'est la responsabilité de l'organisation internationale de s'assurer de la bonne gestion, de la bonne transparence et la bonne utilisation des fonds.
Voilà. Je vous disais tout à l'heure qu'on cherche dans le moteur de recherche. Donc, Nathalie Mouteba et Sylvain Borgueri sont arrivés. Si je me trompe, François, n'hésitez pas à me corriger. Le site de ECHO, c'est europa.eu.int.com/ et puis ECHO, ECHO. Est-ce qu'on est d'accord?
Absolument.
Voilà. Parfait. Donc je répète www.europa.eu comme European Union, Union européenne évidemment, .int/COMM comme commission. /ECHO. Voilà pour toutes les personnes qui nous ont suivies, responsables d'ONG, de développement, d'ONG humanitaire, voulaient avoir des informations par rapport aux interventions de la Commission européenne et des ECHO en particulier. Rendez-vous sur ce site internet. Eh bien, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Un mot de John Hansen.
Oui, aussi pour les réfugiés dans la République du Congo, on va aussi avoir encore des informations sur les questions des retours. On a déjà parlé avec eux sur leurs questions, leurs craintes, leurs souhaits. Et on va les fournir avec un petit journal qui va être lancé chaque mois sur les conditions dans les zones de retour et sur l'aide qu'ils peuvent expecter.
Voilà. François Guémas, peut-être un mot pour conclure?
Merci beaucoup de nous avoir invités. Je crois que cette émission est très utile pour que les gens se rendent compte de cette expression de la solidarité de la communauté internationale envers le peuple congolais. Et donc, merci beaucoup et à bientôt.
Ce fut un plaisir pour Okapi Action de vous avoir interrogé en direct. Merci surtout pour la clarté de vos propos. Je vous souhaite plein succès dans la réalisation de vos projets.
Merci Walter.
Merci Johnson pour les HR. Merci à François Guémas pour ECHO. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. On va se quitter. Pierrot Camon et Lubumbashi, auditeur. Il faut que le gouvernement en finisse une bonne fois pour toutes avec les grèves. Il arrivera qu'un jour les policiers et les militaires grèvent aussi. Ça sera alors la porte ouverte aux agresseurs. Et puis, qui ça? Akili Mali, Timothée. Bonjour Walter Melondi. Oui, bonjour Akili. C'est avec regret qu'il a suivi le sujet du jour concernant la vie des infirmiers de notre pays. Il est infirmier à Goma. Les problèmes des provinces ne seront jamais pris en compte parce que dans notre pays, pour être mieux compris, il faut résider dans la capitale ou alors avoir pris les armes. Les Kinois d'abord parce qu'ils pensent que seuls eux ont droit à la vie. C'est pourquoi, dit-on la bouche pleine, on oublie qu'il y a ceux qui manquent à manger. Et je termine par vous dire que quiconque est déjà tombé malade se souvient de l'importance de l'infirmier. Bonne journée à Kinshasa, bonne journée à Goma aussi. C'est avec vous confinés au Capi Action aujourd'hui. Je suis Walter Molondi, il y avait Sylvain à la mise en onde, Nathalie à la régie et toute l'équipe Bibiche pour vos appels. Hein, c'est ça, on est d'accord. Rendez-vous demain, 9h02, heure de Kinshasa.